Elbakin.net, le podcast. Actualité, débat, auteur, série. L'émission du site de référence de la fantasy francophone.
Et salut à tous et bienvenue pour ce 91e numéro du podcast Elbakin.net. Vous écoutez probablement ce podcast en hiver et peut-être certainement en décembre, tout simplement parce que à l'occasion de la diffusion prochaine de la série Willow sur la plateforme de streaming Disney+, on a décidé de revenir sur le Willowverse, parce que oui, il existe bien un univers étendu autour de Willow, peut-être pas aussi impressionnant que celui de Marvel, mais en tout cas, on a voulu en parler, en discuter ensemble. Donc on vous embarque avec nous pour cette émission qui va nous ramener, une fois n'est pas coutume, dans les années 80. Et pour discuter de Willow autour de cette table, je suis accompagné de Gilles Tanas.
Bonsoir.
Et de Gilles Hossen.
Bonsoir.
Voilà, on commence. Donc pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Willow, qu'est-ce que tu peux nous en dire, Gilles?
Tout simplement, Willow, c'est un film à la base, un film, oui, donc c'est pas une adaptation, hein, précisons-le tout de suite, un film de Ron Howard, datant de 1988, sur une idée de George Lucas en personne, donc évidemment le papa de Star Wars, pour ceux qui auraient loupé l'information, et qui, pour l'anecdote, trouvait que beaucoup de ses films racontaient finalement, enfin c'était un peu une métaphore du petit contre le grand, le grand méchant en l'occurrence, ce qui est un peu le cas de cette histoire finalement de Willow, puisqu'il a confié le premier rôle à Warwick Davis, donc qui était un des Ewoks dans Le Retour du Jedi, et qui est un acteur anglais qui par ailleurs a continué pendant n'a jamais arrêté finalement de jouer, et qui reprendra le rôle de Willow pour la série d'ailleurs chez Disney. Voilà, alors qu'est-ce que ça raconte Willow? À la base, c'est les aventures de Willow, ça va vous étonner, mais, qui est un Elwynn, donc dans un monde de fantasy assez classique, un nain en somme.
Un hobbit.
Un hobbit si tu veux, qui mène une vie paisible dans son petit village où il est en somme paysan, hein, mais qui rêve de devenir un grand magicien, qui a déjà raté plusieurs fois le test pour devenir apprenti.
Il n'a pas eu une bague de magie, ouais, à chaque fois.
Et en fait, il va se retrouver à tel Moïse sauvé des eaux, il va récupérer un petit bébé, donc Daikini, donc les humains en somme, et qui est recherché par la terrible reine Bav-Morda, encore un nom à venir.
Et comme son nom l'indique, est méchante.
Voilà, c'est exactement.
Bav et elle mort, tu vois.
Et qui veut bien sûr l'utiliser pour dominer le monde. Donc Willow va décider de justement partir à l'aventure pour sauver ce bébé, même si au départ, voilà, dans son village, tout le monde n'est pas forcément du même avis que lui. Et en cours de route, il va rencontrer plein de camarades d'aventure, hein, évidemment, hein, puisqu'on est dans un film de fantasy, à commencer par Mad Martigan, donc l'aventurier type, joué par Val Kilmer. Raoul et Frangin, deux espèces de... comment dire?
Ils s'appellent pas Hurlu et Berlu?
C'est des elfes.
C'est le surnom que leur lance justement.
Que leur lance Mad Martigan, ouais. J'étais là, si tu voulais intervenir.
Oui, je voulais dire que au début du film, Willow, c'est pas un mec sympa, parce que quand il trouve le petit bébé dans le panier tel Moïse, il dit à ses enfants, chut, on le remet à l'eau, et puis maman n'en saura rien, et puis comme ça, ça se passera bien.
Vrai, c'est vrai que c'est sa femme au départ, je crois.
Oui, qu'il y a l'espèce de maire du village qui vient lui dire qu'il va saisir ses champs un jour ou à l'autre. Sa femme va voir les enfants que Willow a laissé tout seul jouer au bord de la rivière. En se prenant une soufflante au passage. Elle revient avec le bébé. Je voulais rebondir sur Mad Martigan en tant qu'aventurier type. Je ne suis pas super d'accord sur le coup, mais je pense qu'on reviendra dessus.
Ah, très bien, très bien. Sinon, pour poursuivre la présentation, donc ça, c'est l'histoire. Hein, on ne va pas tout vous raconter. C'est le point de départ et même un petit peu plus. Détail amusant, une partie du film a été tournée en Nouvelle-Zélande, hein, comme Le Seigneur des Anneaux, finalement, un peu plus d'une décennie plus tard. Mais le projet n'a pas forcément un début de vie facile, hein, entre les effets spéciaux qui ont obligé Lucas à attendre la seconde moitié des années 80, parce que c'est une idée qui lui trottait dans la tête depuis les années 70, et des studios qui étaient un peu frileux, parce que la fantasy au cinéma dans les années 80, on va en reparler également, ça marchait pas forcément sur le plan box-office, Legend, par exemple, de Ridley Scott n'a pas été un gros carton. Il y a eu le Dragon du lac de feu aussi, Labyrinthe.
Excalibur avait bien marché en 1981.
Ah ouais, mais c'était presque une autre époque par rapport à la fin de décennie. Donc bref, voilà, la mise en chantier fut pas forcément évidente. En prime, le film, quand il est sorti aux États-Unis, en tout cas, il avait une concurrence assez féroce à cette période. Ah, parce qu'il y avait Crocodile Dundee 2. Alors encore, on est vraiment dans les années 80.
Il y a moins de 30 ans, mais ils ne peuvent pas connaître.
Big, je ne vais même pas vérifier, mais ça doit être le film avec Tom Hanks. Hein. Et Rambo 3, donc dans un registre un peu différent. Mais...
Disons que j'ai du mal à voir où situe la concurrence, en fait, quand tu les énonces comme ça.
Bah, parce que c'était des films très attendus.
Oui, voilà, c'était des suites, etc. Bon, peut-être pas Big, mais... Après, quand tu les mets aujourd'hui au regard de 2022, finalement, Willow s'en sort mieux que les trois autres.
Ah oui, oui, ça après, c'est sûr.
On va falloir qu'on en reparle de ça.
Mais en tout cas, ça n'a pas empêché le film de Ron Howard de démarrer sa carrière avec une première place au box-office américain. Hein, et puis, il s'en sort pas si mal. Plus de 130 millions de dollars de recettes pour un budget de 35, donc au niveau mondial. Avec notamment plus de 2 millions de spectateurs en France, sans parler d'un solide parcours en VHS, là, on est vraiment, vraiment dans les années 80. Ensuite, qui a aussi rapporté quand même une certaine somme. Donc voilà, ça, c'est un film qui a quand même connu un joli succès à l'époque et qui, pendant longtemps, est resté un peu un peu tout seul, un peu comme un coup d'épée dans l'eau, parce qu'il n'y a pas forcément eu de bruit autour d'une suite immédiatement, etc.
Bon, c'est tout était fait pour que ce soit un one-shot. Hein.
Oui, voilà, en plus. Mais c'est vrai que je vois que George Lucas espérait un box-office, des recettes à la hauteur de E.T. C'est sûr que si on prend E.T. comme point de comparaison, forcément, le film a eu moins de retentissement, hein, on va pas se mentir.
Et, il a quand même fait x10, hein. Niveau de son budget.
Oui, mais c'est ça. Mais pour ce qui est du film en lui-même, je pense que, tant qu'à faire, je donne mon avis tout de suite. Hein, moi, c'est un film que je. C'est peut-être justement en partie par nostalgie, mais c'est sûrement un des premiers films de fantasy que j'ai vu moi-même à l'époque, hein, parce que j'étais né dans les années 80. Voilà, spoiler. Je l'ai revu en grande partie il y a pas si longtemps d'ailleurs, justement sur Disney+, je l'avoue. Et franchement, c'est un film que je regarde toujours avec plaisir, en partie grâce à la musique de James Horner, que j'aime pas trop d'habitude comme compositeur, mais là je sais pas, le thème principal est quand même, je le trouve toujours très entraînant. J'ai une tendresse assez marqué pour les personnages, que je trouve tous ils ont une fonction claire, il y a peu de dépassement de fonction, on va dire, mais en même temps ils sont pas superficiels et on s'attache assez facilement à eux. Je pense que c'est aussi grâce aux acteurs, notamment Val Kilmer qu'on citait tout à l'heure. Puis même, je trouve que même l'histoire elle-même se tient bien, ça réinvente rien, mais c'est plutôt solide. Moi, j'aime toujours beaucoup même la façon dont ça a été structuré. Hein. Sans spoiler, il y a une scène notamment où les héros se retrouvent dans une taverne. Il faut finalement qu'il y ait une bagarre pour qu'ils s'échappent. Et l'origine de la bagarre, en fait, elle trouve sa logique dans ce qui précède l'arrivée, dans ce qui précède l'arrivée des soldats qui vont provoquer. Le besoin, la nécessité de fuite, et c'est pas juste les héros qui décident de chercher la bagarre pour s'enfuir. Donc des petites choses comme ça, où je trouve que même au niveau du script, le travail a été quand même bien fait. Et voilà, moi en tout cas j'en garde encore un très bon souvenir.
Tu veux donner ton point de vue, Gilles Tanas? Le mien après.
Mais en fait, je préfère passer après toi parce que comme ça, je rebondirai dessus, tu vois. Okay. Et les gens garderont un point positif en tête.
Alors, en fait, un peu comme Gilo, moi, c'est un film que j'ai vu petit, en VHS, parce que mes grands-parents l'avaient, donc je pense que je l'ai vu plusieurs fois, pas mal de fois, et j'adorais ce film quand j'étais gamin. Je trouvais que c'était vraiment le genre de film, enfin, fantasy merveilleux, qui est ce truc qui te fait voyager en fait. Et c'est vrai que les décors, bah, tu sens quand même la Nouvelle-Zélande, c'est quand même vraiment beau. Ça c'est un des points forts du film. C'est ce qui, pour le coup, quand tu le revois, fait vraiment plaisir. Effectivement, oui, l'histoire a ce côté classique. Val Kilmer, il est kiffant parce qu'en fait, tu sens qu'il est super content d'être là. Tu sens que c'est... à l'époque, il a pas encore 30 ans. Il doit avoir 28-29 ans au moment du tournage. Tu sens que c'est clairement son moment. En plus, d'ailleurs, sur le plateau et sur le tournage, il rencontre sa femme, à savoir celle qui incarne Sorcha. Il est vraiment à fond. Et je trouve que son personnage marche vraiment, vraiment d'enfer. Donc ça pour le coup c'est assez chouette. Mais c'est vrai que je pense, en fait, je l'ai revu là pour les besoins de ce podcast, hein, c'est dire si on est dévoué dans cette équipe. Et en fait, je trouve que quand même, il a un peu de mal à vieillir. C'est vrai que les incrustations des deux nains, quand je parle des nains, je parle des deux minuscules.
Ça s'appelle des brownies, les gars.
Oui, voilà, les brownies.
Les deux tout petits humains, elle est vraiment. Je trouve qu'elle elle a vraiment pris un sacré coup de vieux. Ah ouais. Bah moi je trouve que l'incrustation du dragon à deux têtes, c'est vraiment chouette.
J'aurais dit l'inverse.
Le design.
J'aurais dit carrément l'inverse.
Ah ouais. C'est une scène qui me marquait quand j'étais petit. C'est une scène que ça doit être ma scène préférée du film, encore aujourd'hui. Parce que c'est vrai que le reste a quand même un côté un peu. Ouais, il faut pas le voir. Si tu l'as jamais vu, je pense que ça sert plus à grand chose de le voir maintenant. Par contre, effectivement. À mon avis, c'est. On va en parler, mais je pense que c'est malheureux. Mais il y a plus grand chose qui maintenant soutient le peut encore passer aujourd'hui, quoi. Je suis pas sûr que je pense que tu le montres à un enfant, ça passe. Tu le montres à un adulte de maintenant qui l'a jamais vu, ça va être compliqué. Et vas-y, j'ai
Alors, je commence
pour
par
la,
quoi
la contre-suite.
je commence déjà par me porter en faux et dire que non, il faut voir Willow, d'autant plus si on l'a jamais vu. Pourquoi ? Contrairement à mes deux comparses, là, moi je l'ai vu en étant adulte, j'ai jamais vu enfant en fait, parce que il n'y avait pas de magnétoscope dans ma maison, hein, tu vois.
Oh.
On parlait de trois allumettes à Noël, et voilà, c'est triste. Hein. Bref, bon, toujours est-il que je l'ai vu finalement assez récemment, il y a peut-être 10 ans la première fois, et je l'ai revu hier soir, hein, pour les besoins du podcast. Et moi, je trouve que ça passe encore super bien. Alors, vous allez me dire, oui, mais de toute façon, toi, t'aimes que les trucs des années 80, la belle guerrière, et gna gna gna. Oui, certes, mais justement, c'est... Si on rebondit un petit peu sur ce qu'on avait dit dans le podcast sur la fantaisie à papa, pour moi, il fait partie de ces films, on va dire, pré-jacksoniens, qui t'offrent une vision de la fantaisie que t'as plus aujourd'hui, en fait. Parce que si on compare, par exemple, avec Legend, qui est sorti dans la même décennie, Willow, en fait, finalement, c'est pas si... Comment dire ? Cucu. Féerique, tout le monde y est beau, tout le monde y est gentil. Il n'y a pas un côté Disney dans Willow, je trouve, même si ça a été racheté par Disney, etc. Si vous regardez bien, les mecs, ils évoluent souvent dans la boue, dans le froid, sous la pluie. Même les Nelwyn, finalement, bah, c'est pas tellement la comté, quoi. Parce que si on prend un personnage comme Burglecut, par exemple, qui est le méchant Nelwyn, il est pas sympa et il devient pas sympa, en fait. Il n'y a pas ce côté, finalement, à la fin, il y a une morale, tout le monde dit, le héros va gagner, et puis il fera beau sur le pays, quoi.
Oui, il est pas sympa, mais il lui fait pas non plus des
il est traces, en train de, c'est lui qui le force à partir.
Oui, mais il part avec lui.
Ouais, bah,
non, c'est lui. Oui, enfin, au tout début.
Burglecut part avec Nelwyn parce que Alduin, qui s'est pris un peu de sympathie pour Willow, lui dit bah non, toi, tu vas partir aussi. Et puis, dès qu'il a moyen de tourner Kazak, il repart, quoi.
Ouais, ouais.
Voilà. Pareil, pour revenir sur ce cher Val Kilmer, Mad Martigan. Justement, moi, je trouve pas que ce soit un héros ou un aventurier. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il se révèle être un héros. Parce que. comme le dit toujours, c'est comment il s'appelle, Erk, je crois, son espèce d'ancien compagnon d'armes qui est général d'une des armées. Il faut vraiment attendre les trois quarts du film pour que Mad Martigan dise oui, moi je suis la cause du Nelwyn. Avant, il se bat pour lui, hein, parce que il se fait libérer et après Willow le retrouve chez une bonne femme en train de se déguiser pour échapper au mari de cette femme. Voilà. C'est pas Mad Martigan. Oui,
c'est un aventurier, c'est pas forcément un héros.
Ouais, mais là, c'est plus limite, pour moi, c'est presque, pas dire l'anti-héros, mais c'est vraiment le gars, il est pas héroïque en fait. Il est très bon à l'épée, mais mis à part ça.
Bon, tu vois pas non plus beaucoup de combats à l'épée de sa part. Enfin,
t'en vois ah, si on, hein, c'est sûr pas... que si on revient sur l'épisode de l'hydre, effectivement, il se bat pas, mais il est ingénieux, parce qu'il leur jette des trucs à la tête avec des vieilles catapultes. Voilà.
Exactement.
Donc tout ça pour dire qu'en fait, ça... alors si on n'est pas à cheval sur les effets spéciaux qui la plupart du temps sont assez comment dire, c'est même pas qu'ils ont mal vieilli, c'est que ils ont un côté décalé, je trouve, par rapport au reste, parce que les costumes ont bien vieilli, l'ambiance, etc., la lumière du film est géniale. Mais c'est vrai que les effets spéciaux, je pense aux deux petits brownies qui sont en train de couper une corde en insert, ça rend pas super bien là-dessus, faut être honnête. Mais je trouve que dans un souci de culture générale, il faut le voir si on se dit amateur de fantasy en fait. Et puis, voilà, je n'en démordrai pas.
Bah, disons que là, en fait, on se trouve un peu par... C'est marrant, mais je suis en train de penser que le parallèle du film Willow, qui ensuite a donné une série, c'est un peu la même chose avec Dark Crystal, il y a 3 ans, avec la série qui a donné, qui vient du film. Est-ce qu'il faut le voir ou pas aujourd'hui? Honnêtement, je ne sais pas. Je te dis, moi, le fait de l'avoir revu, si t'es amateur du genre, je pense que tu peux le voir sans trop de soucis. Si tu ne l'es pas spécialement, j'ai peur que ce soit un peu...
Ah oui, mais c'est sûr que ce n'est pas un film pour monsieur et madame Michou qui l'ont jamais vu. Hein. Attention. Hein. Mais en même temps, qui est-ce qui écoute notre podcast? Voilà.
Bien sûr.
Après, c'est sûr que si on parle de monsieur et madame lambda, c'est... Oui, non, on est d'accord là-dessus. Mais je pense que pour quelqu'un qui s'intéresse à minima à la fantasy, c'est peut-être le seul film des années 80 de fantasy. S'il y avait possibilité d'en voir qu'un seul, ce serait celui à choisir, je pense.
Ah, moi, j'aurais dit Dark Crystal. Mais le débat est ouvert et Gilo a peut-être un avis sur la question.
Oui, non, c'était juste pour rebondir sur ce que disait Gitanas, parce que je suis effectivement plutôt de son avis, notamment sur l'ambiance et l'atmosphère de l'univers, quoi, où je trouve pas ça si féerique, disons-le, niais, par exemple. Enfin, je veux dire, rien que les espèces de molosses qui attaquent le village au début, enfin, je veux dire, c'est pas...
Qui mangent la nourrice sur le bord de la rivière?
Et voilà, par exemple, c'est quand même pas...
Tous les bébés qui meurent au début du film, franchement, c'est...
Ça pose l'intro quand même pose un peu un univers finalement pas si
lumineux.
Oui, j'allais dire. Voilà, pas si merveilleux, plutôt assez sombre finalement, d'ailleurs un peu à l'image des romans, on y reviendra. Et moi franchement, enfin je sais pas, moi je change pas mon baril de Willow contre je sais pas moi, enfin je préfère en tout cas revoir
Cargo de Dark Crystal.
10 fois Willow. Regarder une seule fois à l'école du bien et du mal que j'ai dû supporter. Donc c'est une adaptation.
C'est sur Netflix.
Ouais, c'est sur Netflix. Bref, voilà. Donc
pourquoi t'as vu ça? C'est la vraie question. C'est pourquoi est-ce que t'as vu ça?
Parce que quelqu'un que je connais avait envie de le voir. Voilà. Et du coup, j'ai dû supporter cette vision. Mais plus sérieusement, enfin, je sais pas, il n'y a pas tant d'adaptation, c'est pas le mot. Il n'y a pas de temps finalement de fantasy sur grand écran. Et moi, je trouve que, au contraire, je trouve que Willow, même si on peut trouver que ça ne paie pas de mine, tient plutôt bien la route par rapport à pas mal de productions, non seulement de l'époque, mais même. Enfin, je repense à tous les films de fantasy qu'on a eu au début des années 2000 dans la foulée du Seigneur des Anneaux et des premiers Harry Potter. Certains étaient quand même pas fameux non plus, quoi. Et à côté de ça, Willow, pour moi, est plutôt dans le haut du panier.
L'avantage de Willow, c'est que tu sens en fait déjà comme c'est pas une adaptation, c'est assez rare déjà pour être signalé. Et même si effectivement les inspirations vont pas non plus chercher très très loin, tu vois, les humains c'est des Daikini, alors les hobbits c'est des Elwyn, bon bref, les noms sont un peu changés mais sinon c'est la même chose. Il y a déjà effectivement ça. Non, l'avantage de Willow, comme vous l'avez dit, c'est qu'il y a cette espèce... J'allais dire, il y a une certaine candeur, mais c'est même pas ça, en fait. C'est qu'il y a en fait, c'est vrai que malgré, je trouve, son aspect un peu vieillissant, il a quand même un certain charme. C'est pas affreux à voir. Maintenant, c'est vrai qu'effectivement, malheureusement, j'ai pas pris le même plaisir à le revoir que vous. Donc, j'ai trouvé que la musique de James Horner, elle est quand même compliquée, hein. Le thème principal, il est très répétitif et
oh, en pas fait, autant que celui de Galadriel.
Je me rappelle même pas de ce... Je savais même pas qu'elle avait un thème dans la série du Seigneur des Anneaux.
Ah, si, si.
C'est celle que t'entends tout mais le temps.
En fait, j'entendais pas la musique, tu sais.
J'écoutais pas les dialogues.
Écoutez pas les dialogues, ouais. C'est pas un aspect, un des points forts de la série, malheureusement.
Mais oui, mais en fait, elle est très années 80, la musique, en fait, hein, donc encore une fois, c'est un style qui, effectivement, si on le met aujourd'hui en 2022, c'est mort, ça ne passe pas. Mais je trouve qu'elle est bien adaptée au film, finalement. Elle forme un tout cohérent avec. Tu peux pas, par exemple, la prendre et puis retravailler un peu le thème et le mettre sur autre chose, à part peut-être dans la série. Sinon, faut vraiment.
Je sais pas, pour moi, une musique typique des années 80, ça aurait été si jamais le film c'était des nappes de synthé, tu vois, pour la BO.
Une musique de film des années 80.
Oui.
Je sais pas, tu prends la musique de Princess Bride.
Ça a quand même le côté un peu musique épique des années 80.
C'est ce que je voulais dire, je me suis peut-être mal exprimé.
Mais c'est vrai que oui, sur le coup, il n'y aura pas de synthétiseur.
Malheureusement.
Ce sera plutôt des instruments avant qu'autre chose. Bien. Je pense qu'on a un peu... vous voulez rajouter quelque chose sur ce film ?
Regardez-le.
Oui, pareil, regardez-le si
si vous voulez le voir, hein, alors il est sur la plateforme Disney+, parce que
logique,
bien, oui, ils sont rachetés. Voilà.
Je crois qu'il n'est malheureusement présent que là.
Bah oui, parce que du coup, ils ont l'exclusivité à cause de la série qui va sortir, il me semble.
Exactement. La série qui sort le 30 novembre, donc a priori, quand vous écouterez ce podcast, elle sera déjà sortie. Donc voilà.
Ou sur le point de sortir.
Ou sur le point de
sortir. Et on fera une émission sur la série ?
Nous verrons.
On y reviendra sûrement dans le bilan, en tout cas.
En tout cas, on pourra en parler effectivement dans le bilan de l'année, donc dans un futur podcast. Ça, c'est sûr qu'on va en discuter, parce que c'est quand même une sortie un peu majeure de la fantasy. Par rapport à la fantasy de l'époque au cinéma, juste pour resituer un petit peu le contexte dans lequel Willow est sorti, dans les années 80, il y a eu quand même quelques films assez, on va dire, assez majeurs en fantasy, ce qui est notamment... Gilles Danas, tu as parlé du Magicien
d'Oz. Ah oui, alors, parce que... Comme j'ai regardé Willow hier soir, une fois que j'ai terminé le film, on m'a proposé une adaptation du Magicien d'Oz de 1985.
Moi aussi. Et je ne l'avais jamais vu. Moi, je croyais qu'il y avait la seule adaptation du Magicien d'Oz, c'était celle avec Judy Garland.
Il faut rester sur l'idée que c'est celle-là.
Ah ouais, d'accord.
Il a du mal à soutenir la comparaison, en fait, pour plein de choses. Mais après, il y a eu pas mal de films, mais je vois notre petite liste là, il me semble qu'on a oublié de mettre Princess Bride, et ça me chagrine.
Ah bah non.
Il y est, et c'est moi qui l'ai mis en premier. Je ne sais pas lire, excusez-moi.
Vous avez effectivement Princess Bride. Alors, t'as cité Beetlejuice, mais Beetlejuice, c'est de la fantasy pour vous ?
On peut revenir sur ça.
Fantastique.
Voilà, fantasy, voilà, c'est... Si on commence à filtrer que de la pure fantasy, on a trois films. Donc,
Non, parce que t'as quand même cité, bon, on a cité tout à l'heure Dark Crystal.
Ouais.
Bon, moi, je l'aime bien malgré ses défauts. Il n'est pas parfait, Dark Crystal. Si vous ne connaissez pas hein, le film, hein, c'est vraiment le film du créateur du Muppet Show. Donc, faut vraiment imaginer qu'il avait envie d'un truc un peu fantasy, un peu dark. Mais sinon, c'est un peu basé sur le même.
Du coup, il a mis Dark dans le nom, comme ça, c'était bien.
C'est ça. Mais moi, je trouve que l'histoire est assez chouette. Je me rappelle encore de mon premier visionnage. Ça m'avait plutôt marqué, en fait. Donc, Dark Crystal, j'ai trouvé que c'était assez chouette. Et j'adore la série. La série a été vraiment un coup de cœur et je suis encore atterré qu'elle ait été annulée après une saison. Bref, l'histoire sans fin aussi, ouais. Alors, l'histoire sans fin, c'est vraiment un vrai coup de cœur chez moi. C'est vraiment une vraie, vraie référence. Je sais.
Avec un thème que tout le monde connaît maintenant.
Avec un thème que je. Oui,
grâce à Stranger Things.
Et que je trouve. Ouais. Stranger Things qui nous fait des revivals à chaque fois qu'une saison sort.
Hop.
Ils nous prennent quelques éléments des années 80 qui ils les remettent au goût du jour. Donc, c'est tu me diras effectivement l'histoire sans fin, c'était pour la fin de la saison 3 ou 4.
Attends, on est à la combien? À la 5?
On va passer à la 5.
Donc,
je crois que la finale,
donc c'était la saison 3.
La saison 3, d'accord, ok. Ah, c'était celui où le méchant c'est le caca avec les dents là.
C'est celui où.
Ne spoilons pas, ne dévions pas.
Bon, pardon, on est en train de dévier. On est en train de dévier. Donc, bref, donc on avait l'histoire sans fin, on avait Conan bien entendu, donc on a eu deux moutures rien que dans les années 80. T'as cité également le choc des titans. Alors je te fais ta liste. Hein,
ça me va parce que.
Et t'as parlé de Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin, mais alors pour le coup, moi je trouve pas que ce soit.
Oui, mais il y a Val Kilmer, donc. Je voulais qu'on en parle d'ailleurs, si vous ne l'avez jamais vu, regardez-le, c'est un chef-d'œuvre.
C'est de la magie quand même.
Voilà, il y a tout dedans. C'est un petit peu de l'urban fantasy.
On peut toujours s'en tirer comme ça.
Je sais pas si, bon, vous ferez votre avis, chers auditeurs, sur Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin. Mais finalement, qu'est-ce qu'il en reste de Willow 34 ans plus tard, honnêtement? Personnellement, en fait, je me suis posé la question parce que figurez-vous que ces derniers jours, et notamment pas plus tard qu'hier, j'étais avec des amis, et je leur dis, ouais, le prochain podcast que je vais faire, c'est sur Willow. Et question interloquée, putain, c'est quoi Willow?
Alors, faut que tu changes d'avis, voilà.
Non, mais en plus, ils ont... C'est un groupe d'amis qui est dans la tranche d'âge. Bon, les plus jeunes approchent la trentaine, sont aux alentours de 28-29 ans. Et sinon, ils sont entre 30 et 35. Et c'est vrai que sur le coup, ils ne savaient pas ce que c'était Willow. Pareil, j'en parle à madame la semaine dernière. Elle me dit c'est quoi Willow? Je lui montre la bande-annonce. Elle me dit no way, je ne veux même pas regarder ça. Donc, et elle savait pas ce que c'était. Je lui dis mais c'est pas possible, t'as pas eu d'enfance. Et faut savoir que ouais, je pense que malheureusement Willow s'est un peu tombé en désuétude. J'ai un peu peur que la série rencontre pas trop son public.
Mais je pense que Willow c'est plus pour les tranches d'âge 40 plus, tu vois.
Ah ouais, oui. Ah ouais, c'est clair que c'est pour moi c'est vraiment c'est un pilier nostalgique.
C'est pas pour les trentenaires.
Quand même. Enfin, pour les. On va dire fin
sortie 88, on va dire tu l'as vu en 95-96. Si les gens sont nés en 1900.
C'est le temps que c'est une VHS en fait de Willow, et Gilo a envie de dire quelque chose.
Oui, non, pour répondre à ta question, moi, je pense que si tu poserais la même colle entre guillemets à tes amis sur est-ce que vous connaissez Legend de Ridley Scott avec Tom Cruise.
Tom Cruise qui brille.
Qui brille, voilà. Enfin, son armure.
Je pense qu'absolument personne ne connaît Legend.
Ouais, voilà, je pense que personne ne connaît Legend. Princess Bride, je suis pas sûr que ça serait vraiment un résultat plus équivoque, même s'il y a eu la traduction du roman depuis.
En fait, vous ne faites que mettre l'accent sur le manque de culture de nos contemporains, c'est tout.
Voilà, tout à fait.
Mais effectivement, le seul qui va s'en sortir dans l'eau, c'est Conan. Clairement.
Ouais, et encore, tu crois vraiment que.
Quand même.
Ou l'histoire sans fin, je suis même pas sûr, tu vois, que.
L'histoire sans fin, c'est vrai que. Ouais, j'ai pas l'impression que ça ait très très bien.
Nonobstant le fait que l'auteur du roman, donc Michael Ende, détestait le film, mais ça, bon, c'est autre chose.
C'est souvent comme ça, les adaptations.
Oui, bah voilà. Mais c'est vrai que je suis pas sûr que dans cette liste, Willow soit forcément le plus mal loti.
Le plus mal loti
ou le plus méconnu, hein, honnêtement. Effectivement, est-ce que c'est juste une question de génération ou de film pas assez marquant? Si on prend les grands films, quels sont quelques films marquants des années 80 qui parlent encore à tout le monde? On a Indiana Jones. Aidez-moi.
E.T., ouais, tu l'as dit. Film marquant des années 80. Attendez, j'allais dire Le Parrain, mais Le Parrain, non, c'était les années 70.
Ouais, je cherche toujours confondu.
Rocky IV. Forrest Gump. Retour vers le futur.
Pour le coup, Retour vers le futur est vraiment très.
Parce que Forrest Gump, c'est plutôt 90.
Ah oui, autant pour moi.
Retour vers le futur, oui, c'est vrai que.
Retour vers le futur, pour le coup, je pense que c'est vraiment le truc qui est hyper iconique, même dans les Avengers, si t'en parles.
Alors après, effectivement, voilà, si on sort une liste, tout de suite, on dit ah, Piège de cristal. Ah bah ouais. Voilà, j'ai une liste sans critique là devant moi. Passer, on va dire, le top 10. C'est fini après les autres.
Effectivement, non, mais je suis assez curieux de voir le retour, comme vous dites, de que les gens auront par rapport à la série. Ce qui va surtout compter pour moi, et c'est qu'elle soit quand même un minimum quali, quoi.
Ça dépend. Qu'est-ce qu'on entend par quali?
Attendez, parce que ça, c'est la dernière partie du podcast, normalement. Là.
Ah, ben alors, on avance. On est allé trop vite. Alors, attendez.
Juste par rapport.
On va y aller plus tard. On va évoquer maintenant les romans. Parce que. On a parlé tout à l'heure en introduction du Willowverse. Et c'est pas pour rien.
C'est pas pour rien, effectivement.
L'univers étendu de Willow, c'est aussi des romans. Oui. Donc Willow va nous.
Oui, parce qu'une certaine personne qui participe ce soir. Disait sur le plan de notre podcast découvrir leur existence, alors qu'ils sont chroniqués depuis 11 ans sur.
J'avoue, je savais même pas qu'il y a des romans.
Mais voilà, en fait, moi j'avais entendu parler de ces romans sans les avoir jamais lus, donc à l'époque. Et puis c'est vrai que, rappelez-vous, il y a un peu plus de 10 ans, Soleil s'est mis en tête de publier des romans avec sa collection Arcane. A-R-K-H-A-N-S, non, je ne sais plus, est-ce qu'on dit d'ailleurs, je ne sais pas si on disait Arcane ou Arcanes, je ne sais pas. Et finalement, en fait, il n'y a pas eu beaucoup de titres dans cette collection, si ce n'est les trois tomes de Willow, donc de la trilogie qui a suivi le film. Donc trois volumes, hein, Lune d'ombre, Crépuscule d'ombre et Étoile d'ombre, qui ont été tous les trois traduits en français, donc autour de 2011. Signé par sur une idée de George Lucas, mais écrit par le célèbre scénariste de comics Chris Claremont, et publié, comme je vous l'ai dit, à la volée. Donc là-dessus, Soleil a fait le boulot. Hein, on peut pas dire qu'ils n'ont pas abandonné la trilogie en cours de route, parce que j'ai pas forcément l'impression que ça a été un carton de au niveau des ventes. Hein. Est-ce que déjà ça arrivait trop tard en 2011? Par rapport au film de 88, je ne sais pas, pour donner envie aux lecteurs. Moi, de ce que je me rappelle de cette lecture, hein, comme je le disais justement dans la chronique du premier tome, et c'est un peu ce qu'on a évoqué en parlant du film et de son écho aujourd'hui, hein, je me cite, ça peut arriver. Quant aux trentenaires installés, celles et ceux qui ont découvert émerveillé le long métrage au cinéma ou un mardi soir sur FR3, une bouffée de nostalgie peut-elle suffire à les pousser à l'achat? Il n'est pas certain que le nom Willow représente encore une véritable marque, entre guillemets, capable d'attirer les foules. Et sachant que les romans eux-mêmes, ils sont vraiment une suite, hein. Le premier tome débute un an après la fin du film, même si... Bon,
ça parle de quoi? Donne-nous envie.
En fait, on suit surtout Elora Danan, donc le bébé du premier film.
Bébé du film.
Du coup, un an après, à deux ans.
Voilà, mais en fait, il y a un saut très rapide à son adolescence, on va dire. Sinon, ça serait un peu, effectivement... On comprendrait que ça soit un peu... Bon, pas forcément très pertinent comme projet, si elle avait deux ans tout au long de la trilogie. Et Willow est un peu... pas forcément un personnage secondaire, mais en tout cas, il est plus tout à fait au centre de l'intrigue. Après, les romans portent pas vraiment son nom, hein, mais c'est juste finalement le même univers, et évidemment le monde est encore une fois menacé par le monde est encore menacé par un mal avec tout ce que ça implique, donc de magie noire, de créatures terrifiantes, etc., qui veut dominer justement tous les autres peuples. Et la petite Elora va se retrouver à essayer de trouver une solution pour sauver son monde. Et c'est un peu comme ça toute la trilogie suit cette intrigue de base, mais à coup d'idées. C'est assez confus à l'image du résumé que je vous en fais, mais vraiment j'avais été marqué par ça pour le premier tome. Ça partait un peu dans tous les sens. T'avais des idées qui étaient abandonnées en cours de route, sans qu'on y revienne jamais. Des personnages qui sont, notamment Willow, qui, alors évidemment, tout le monde peut changer, évoluer avec le temps, etc. Mais je retrouvais pas le personnage du film, alors qu'il avait pris qu'une dizaine d'années. Et puis comme je l'ai noté en plaisantant, un personnage qui s'appelle Luke John en français, ça le fait pas. Donc même si on retrouve Raoul et Frangin, eux aussi qui sont là dans les romans, c'est globalement des...
C'est Roule, pas Raoul.
c'est Roule dans les romans, mais et en VO, mais en français, je suis pas sûr que ce soit Roule. Hein. C'est Roule pour toi ?
Oui, monsieur.
Pour moi, c'était Raoul, mais enfin, pour moi, c'était Hurluberlu, je vous rappelle.
Bon, à vérifier, de toute façon, c'est un détail.
Ils sont désolé.
Ils sont en tout cas tous les deux là. Mais voilà, c'est une trilogie assez bizarre. J'hésite pas à dire bancale. D'ailleurs, je crois qu'il n'y avait pas une. Enfin, je crois qu'à l'époque, on mettait encore des notes sur le site. Mon bon monsieur, on n'avait pas dépassé 5,5 sur 10. Pour aucun des trois tomes, terrible, hein. Donc c'était assez moyen, et pour le coup, la nostalgie n'avait pas suffi à emporter le morceau, on va dire. Et effectivement, ça se distinguait, notamment, comme je disais, par une ambiance assez différente. On l'a dit tout à l'heure, Willow, c'est pas si léger que ça, ça joue pas la carte du merveilleux à fond. L'univers peut être quand même à avoir des côtés assez sombres, mais là, on partait dans des trucs vraiment...
Beaucoup plus sombre.
Beaucoup plus sombre, non. Hein, c'est pas la dark fantasy en tant que telle, si tu veux. Mais et puis après, c'est forcément, tu te demandes presque finalement pourquoi ils ont voulu. Enfin, ils auraient pu créer quelque chose de totalement différent. Pourquoi vouloir l'inscrire dans le Willowverse tout à l'heure.
C'est vrai. Voilà. Pour le coup, c'est vrai que tout le film te dit que le bébé, donc Elora Danan, est appelé à devenir une grande reine qui va battre Bav Morda, sauf que en fait, Bav Morda, elle n'est pas battue par Elora Danan, elle est battue par Willow.
Non.
Attention, spoiler. Ouais. Hein.
Elle n'est pas battue par Willow.
Attention au spoiler, oui. Désolé, on parle quand même d'un film de 34 ans.
Enfin, si, c'est lui, mais lui, il arrive et il finit le travail. C'est Finn Raziel quand même qui fait tout le gros du boulot.
Ah oui, Finn Raziel fait la sorcière, la sorcière qui passe tout le temps transformée en animal, puis qui à la fin finit par retrouver sa forme.
Je viens de vérifier, c'est bien Raoul en VF.
C'est Raoul en VF, mais quelle horreur!
Ah bah moi, je trouvais ça marrant.
C'est comme Chic Tabac.
J'ai revu en VF et effectivement, il me semblait bien que c'était.
Mais dans les romans, c'est Roule. Hein. Pour le coup, ils ont gardé la VO, VO d'office.
Je viens de voir que les romans datent des années 90. Ils sont sortis entre 95 et 99, à 12 ans d'intervalle. Et même avec un peu moins d'une dizaine d'années d'écart, il n'y a pas eu de... Il ne semble pas effectivement y avoir eu beaucoup d'engouement.
Oui, et puis même à l'époque, la traduction, j'ai pas l'impression que les romans, on en ait beaucoup parlé à l'époque, que ce soit sur Elbakin ou ailleurs. Je ne sais pas s'ils ont vraiment trouvé leur public. Alors que c'était quand même Soleil.
Je ne pense pas.
Voilà, mais bon, en tout cas, il y a aussi des romans. Et puis, moi, je ne le savais pas, mais j'ai appris qu'il y avait des jeux vidéo.
Oui, il y a des jeux vidéo. Alors, ça va pas aller chercher très loin, hein, parce que Willow, c'est les années 80 et ça y reste, j'ai envie de dire. Sauf pour les romans. Mais il y a deux jeux qui sont sortis à l'époque. Donc, un action RPG sur NES en 89 qui est vraiment moche. Et une version arcade, elle aussi sortie en 89, donc vraiment dans la foulée du film, et qui a l'air quand même plutôt cool, avec des graphismes plutôt sympas, et un design au niveau des assez, plutôt bien respecté au niveau des combats de boss, etc. Ça a l'air d'ailleurs assez dynamique, t'incarnes à la fois Willow dans certains niveaux, mais également Mad Martigan. Donc tu alternes au niveau de la jouabilité.
C'est un bizarre, du coup.
C'est comment est-ce que tu pourrais dire oui pour moi le l'arcade ça va être du ça,
oui
ça
parce que le Beat'em All. Willow sur NES est plus sur un Zelda hein.
Quoi que tu me diras Beat'em All oui et non parce que t'as quand même un peu des phases de j'allais dire de plateforme. C'est pas vraiment du pur Beat'em All où t'avances et tu castagnes.
Pour moi, le jeu d'arcade, tu vois, j'associe vraiment ça à de l'action pure.
C'est action, mais tu évites les pièges, tu montes sur la plateforme en haut, tu descends, tu remontes, tu vois, enfin, il y a un peu de ça. Le combat de boss combat final a l'air assez vénère d'ailleurs, contre Bavmorda. Donc, malheureusement, encore une fois, c'est pas des jeux qui ont
du coup, j'imagine que c'était pas le même éditeur pour le jeu NES et le jeu d'arcade.
C'est Capcom, je crois, sur le jeu NES, non ?
Capcom pour le jeu NES, mais tu sens que bon, ils l'ont fait parce qu'il fallait le faire. Et pour le jeu d'arcade, c'est qui ?
C'est marrant parce que du coup, j'aurais pensé plutôt à Capcom pour le jeu d'arcade.
Peut-être Capcom aussi. Hein.
C'est peut-être aussi Capcom.
C'est
alors,
peut-être pas les mêmes équipes.
Oui, c'est Capcom, effectivement, pour le jeu d'arcade. Aussi. Mais il est référencé comme jeu de plateforme.
Ouais, voilà. De toute façon, moi, je connaissais ni l'un ni l'autre, donc j'avoue que. Je serais curieux de voir ça.
Si vous avez l'occasion d'y jeter un œil,
si vous avez aimé le premier Zelda, ça passe sur NES.
Est-ce qu'il est dispo sur Switch ?
Non, il coûte très très cher à l'Argus, mais il est sympa. Il est sympa. Si on est dans le délire de jouer à des jeunesses de 1989. Attention, encore une fois.
C'est les musiques du film ou...
C'est surtout des musiques en 8 bits, hein, donc c'est du bruit.
Ah ouais, quand même.
C'est du minimal.
Voilà, c'est un Zelda-like, quoi. Light, et même.
C'est du minimal.
Ok.
Ouais. Mais qu'est-ce qu'on pourrait en attendre du coup de cette série Disney Plus ? Du coup, ça parle de quoi ?
Bah, a priori, alors, elle semble rien avoir avec les romans, hein, pour le peu qu'on en sait, notamment les deux bandes annonces qui ont été déjà diffusées, hein, parce que le synopsis de base, c'est une princesse qui est accessoirement la fille de Sorcha, justement, réunit un groupe pour la suivre dans sa quête pour sauver son frère jumeau. Et bien sûr, dans ce groupe, il y aura aussi donc Willow. Willow, forcément, bien plus vieux, puisque là, il est un peu à la cinquantaine, quoi, on va dire.
Mais alors, petite précision, juste, il faut savoir que Warwick Davis, qui incarne Willow dans le film, il incarne donc Willow, qui est un père de famille, bien installé. Il a 18 ans, l'acteur, à l'époque. Il a littéralement 18 ans. Et c'est pour ça qu'en fait, sur le coup, quand j'ai vu qu'il reprenait son rôle, je me suis dit, mais il doit être vraiment vieux, il doit avoir au moins 70 ans. En fait, non, il a que...
Comme toutes les personnes souffrant de nanisme, c'est difficile de...
Oui.
Simplement sur leur physique. Quoi.
Mais c'est ça. C'est exactement ça. Mais c'est vrai que sur le coup, ça m'a vraiment... J'ai vraiment vérifié la date plusieurs fois. Je me suis dit, sa date de naissance, parce qu'effectivement, ça m'a...
Par contre, il a super bien vieilli.
Il a très ah oui
dans
il
les
a
bandes annonces il pète la classe avec ses cheveux là, son bâton tout tordu là franchement
Du coup il sera sûrement plus classe que dans les romans hein. Parce qu'un peu plus de temps s'est passé visiblement aussi parce qu'on est une bonne génération plus tard sinon c'est une idée qui traînait dans l'air depuis assez longtemps hein, la série parce que on parle d'un Willow 2 depuis quelques années déjà au départ ça aurait dû être c'était envisagé pour le cinéma hein, une suite classique. Et finalement, c'est Disney Plus qui a donné son feu vert pour en tirer une série. Hein. Faut bien alimenter la plateforme avec notamment du contenu basé sur des.
En ce moment, ils recyclent beaucoup les licences qu'ils ont achetées ou qu'ils ont produites eux-mêmes.
Oui, voilà, c'est ça, clairement.
Avec beaucoup de réussite et beaucoup moins.
Ah bah ça, c'est variable, hein, c'est sûr. Mais
oui. Je me permets une parenthèse, mais par exemple, je sais, si on reste sur les adaptations Disney+, on peut avoir des choses, par exemple, comme Andor, pour Star Wars. Alors, en ce moment, ils balancent beaucoup de Star Wars. Donc, il y a possibilité de faire des choses sympas sans un budget non plus énorme, etc. Mais après, on a aussi des licences qu'ils ont rachetées ou qu'ils ont remis au goût du jour. Par exemple, je pense à... En anglais, c'est quoi ? National Treasure ? Benjamin Gates.
Ah bah oui, Benjamin Gates.
Qui vont aussi me remettre en avant avec rien que les bandes annonces, on voit tout de suite l'écart qu'il peut y avoir. Donc comme tu dis, ils alimentent beaucoup la plateforme en ce moment parce que concurrence, les tarifs qui vont augmenter bientôt ou qui ont augmenté, je ne sais plus. Non, je crois que c'était Netflix qui a augmenté. Et du coup, ils sont un petit peu obligés de mettre en avant des choses qui vont faire parler d'eux. Mais ce qui me semble un petit peu contradictoire, c'est que si on repart sur ce qu'on disait au début, c'est que Willow, finalement, ça parle à qui ? La série, et pour qui ? Mais bon, monsieur, je vous pose la question.
Bah, je pense, comme tu disais, moi, je pense pour les gens qui ont une fin de trentaine, début de quarantaine, et qui ont des enfants, peut-être, et qui par nostalgie, voudront regarder la série, la faire découvrir à leurs enfants... Ouais, je sais pas. J'imagine que c'est quand même la cible principale, parce que c'est aussi peut-être eux qui payent les abonnements. Hein.
Donc, parce que j'ai l'impression que c'est trop bien bouclé, et du coup ça fait vraiment un vrai plan, tu vois. Mais est-ce que l'impact de Stranger Things là-dedans est finalement pas si anodin que ça, je pense, dans le revival des années 80 et ce genre de choses? Parce que c'est une série qui cartonne, et du coup, on se dit « Ah, oh, Willow, quand même, ça parle, hein, pour les gens qui ont connu les années 80. Allez hop, on va ressortir ça. » Mais je crains, malheureusement, que même si ça, j'espère que ce sera très bien, ça soit un bide, en fait.
On peut quand même... Je pense que Disney va essayer de le mettre en avant, au moins à minima. Après, c'est toujours intelligent de sortir une série... une série de fantasy pour la période de
Noël.
Disons
que dans la roadmap, entre guillemets, elle va succéder à Endor, qui est déjà de la SF, et en plus qui est, adulé, mais qui a, au fil des épisodes, qui chope vraiment une réputation de quelque chose de très bien. Donc je pense que c'est que j'ai peur que l'attente...
Il y a eu Super Noël, la série aussi, qui arrive.
Voilà. Là, en fait, que l'attente des fans que nous sommes plus ou moins soit, je sais pas comment dire ça, qu'on soit touché, merci, et que le grand public en fait passe totalement à côté, parce qu'en plus en ce moment ça bombarde sur les autres plateformes. Donc,
moi, je trouve que Disney Plus et jusqu'à présent tout ce qu'ils ont fait sur Star Wars, je déteste.
Tu détestes Endor.
J'ai pas regardé, je ne veux pas regarder Andor, en fait. J'ai tellement haï Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi, c'était un peu pour moi la dernière chance. Je me suis vraiment dit, je me suis vraiment dit, il y a moyen que ce soit super génial, trop stylé, et c'était dégueulasse, disons-le. Je pèse mon mot et je l'assume. Donc, en fait, c'est vrai que la plateforme, pour moi, met du temps à trouver un peu sa série, vraiment marquante, qui soit entièrement originale. Donc, exactement. Même si Willow, là, pour le coup, ce sera pas original. Effectivement, c'est vrai que comme Gilo le citait, c'est quand même cool d'avoir les acteurs du film, parce qu'on a, au-delà de Warwick Davis, donc qui reprend son rôle de Willow, on a quand même Joan Wallet qui reprend son rôle de Sorcha. Alors malheureusement, on n'a pas le pauvre Val Kilmer parce que il est très malade. Hein. Pour rappel, hein, je crois qu'il a un cancer de la gorge.
On l'a vu dans Top Gun 2, ouais, c'était triste.
Et donc malheureusement, il n'est pas au casting. Après, c'est vrai que ça va être, il va y avoir aussi un casting plus jeune. À voir. Franchement, je suis assez, c'est sûr que en tout cas personnellement, je vais jeter un œil. Assez curieux et sans y aller, sans me forcer. En fait, je pense que je vais le lancer. Je lancerai le pilote avec une certaine attente.
Et n'oublie pas d'écouter les musiques.
Écoute, j'espère qu'elles seront entraînantes. Hein, on verra.
Je voudrais dire quelque chose quand même par rapport aux attentes. Encore une fois, ce qu'on disait sur qu'est-ce qu'on peut attendre et quelles sont les attentes que peut nourrir. Disney, par exemple, je pense qu'ils ont quand même conscience aussi de qui, à qui ils s'adressent, hein, puisque avant les deux premières bandes annonces, il y avait eu aussi une première vidéo, je m'en rappelle, où on voyait Warwick Davis qui nous montrait un peu les coulisses de la série, sauf qu'évidemment, c'était des fausses coulisses, hein, mais oui, il était entouré justement des jeunes acteurs qui vont faire partie de ce groupe d'aventuriers, et où justement, ils jouaient beaucoup sur la notion du fait qu'ils n'étaient pas nés à l'époque du film, qu'ils le connaissaient pas, enfin, qu'ils savaient pas qui il était, enfin voilà. Donc je pense qu'ils ont quand même conscience, c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a des personnages plus jeunes, hein, clairement, hein, c'est pas juste ceux de l'époque qui reviennent pour une dernière aventure, etc. Il y a une nouvelle génération, et j'imagine que ça fait partie aussi du projet, c'est quand même forcément d'essayer de, bah, de parler à tout, au maximum de monde possible, hein, dans les... Ron Howard, qui est toujours producteur de, enfin qui est producteur de la série, j'imagine bien qu'il a aussi grandi avec ce public et que forcément lui qui continue à voir évoluer Hollywood, bon parce qu'on lui doit quand même Solo. Dernièrement, je suis pas sûr que ça peut réussir puisqu'on parlait de Star Wars, mais voilà, je pense quand même qu'il y a ce côté où ils ont bien conscience que, comme on l'a dit tout à l'heure, Willow c'est pas forcément quelque chose qui parle immédiatement quand on cite le nom. Hein, voilà, peut-être même qu'il y en a qui vont dire que c'est la. Ah oui, mais c'est l'ami de Buffy. Ben non, pas.
Oui, oui d'ailleurs, il faudrait faire un podcast sur Buffy.
Écoute. Allez, pourquoi pas sur.
Soumets l'idée. Mais
en tout cas, moi, je pense qu'au niveau de. Bah, l'équipe technique a l'air solide. Moi, j'ai bien aimé les bandes annonces. J'avoue qu'elles m'ont assez hypé, pour parler en bon français. Et voilà.
Et que c'est suffisamment
pour bah, le signaler. Oui, c'est plus facile, je trouve, de rater une bande annonce que d'en réussir une, finalement, qui donne vraiment envie de découvrir autre chose. Enfin, qui de découvrir le produit. C'est un peu triste, mais l'œuvre. Et ouais, moi je suis quand même assez impatient, assez curieux, et je pense qu'on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise.
Ben franchement j'espère, parce que j'ai pas participé au podcast sur les séries, donc du coup j'ai pas pu le dire, mais que ça soit autant les Anneaux de Pouvoir que House of Dragons, ça m'a pas emballé plus que ça, et j'espère vraiment que ça sera ma série fantasy de fin d'année. En attendant Sandman 2 dans quelques années.
Écoute, ouais, effectivement, c'est tout ce qu'on peut souhaiter à la série.
Oui, quand au niveau série, on a tendance, et à raison, il faut être difficile, je pense, hein, parce qu'on ne peut pas non plus toujours se contenter de trucs médiocres, mais n'oublions pas qu'on est quand même passé par des années où les seules séries fantasy, c'était Shannara.
Shannara.
Good Kind, là.
Oui, bah l'épée de vérité.
L'épée de vérité, mais ça s'appelait pas comme. Ouais.
C'est un gimmick, ça en l'os.
Oui, mais c'est une série qui est mieux que Shannara.
Je n'en ai pas vu un seul épisode.
Bah, là, avec un sujet, ça reste est-ce que mon caca est meilleur que ton vomi, hein. Je suis pas sûr que.
Ouais.
je suis déçu de cette réaction.
Non, mais honnêtement, j'ai pas regardé la série jusqu'au bout, hein, pour Legend of the Seeker, mais les premiers épisodes, c'était. Je pense que quand ils se voulaient sérieux, moi ça me faisait rire, un peu comme dans les livres, tu me diras, donc là-dessus c'était réussi. Mais oui, enfin, je sais pas ce que donnera Willow, mais je veux croire que ça sera plus abouti que ça. Quoi.
Les bandes annonces sont encourageantes en tout cas.
C'est ça.
Ouais. Eh bien, en tout cas, n'hésitez pas, quand la série sera sortie, également à venir en discuter sur le forum d'Elbakin.net à propos de la série Willow.
Oui, puis si vous ne l'avez pas vu, encore une fois, regardez-le, ce ne sera pas 2 heures de perdu.
On parle du film.
Mais oui.
Donc là, on vient de... Okay. Bien, messieurs, je pense que nous avons fait le tour.
C'est un record du monde.
Oui. On n'a pas prononcé une seule fois le mot PEC.
Ah, c'est vrai.
Je suis déçu. Non.
Rappelons juste pour ceux qui n'ont pas vu, qui connaissent pas le film, que PEC, c'est un surnom, on va dire, peu flatteur.
Péjoratif.
Péjoratif pour
le peuple de Willow.
Exactement. Exactement. Bien, eh bien, nous arrivons à la fin de ce podcast, effectivement, qui fera certainement moins d'une heure. Donc, on espère donc format un petit peu plus court que d'habitude. Pour rappel, hein, si vous voulez contribuer, vous aussi, à maintenir, à nous aider
à payer le chauffage.
Ces podcasts. Exactement, à payer le chauffage. Il se moque de moi car je n'ai actuellement
pas. Je suis encore de l'électricité.
Il faudrait voir l'image parce qu'il faut s'imaginer une écharpe, on dirait Monsieur Scrooge, quoi. Comme...
Ah oui, oui. Ah oui. C'est... effectivement, j'ai sorti la grosse écharpe, j'ai tout, tous mes vêtements sont doublés, enfin bref. Et effectivement, donc ouais, si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à faire un don sur la plateforme Hello Asso, dont vous trouverez le lien sur la page d'accueil du site. Et également, si le cœur vous en dit, à nous mettre 5 étoiles, soit sur Apple Podcast, sur Spotify, nous mettre un commentaire et un pouce sur, également sur YouTube, parce qu'on met également les épisodes du podcast sur cette plateforme. Voilà, voilà. Bien, messieurs, on se retrouve au prochain
podcast. Oui, sans doute pour le bilan de l'année, comme on l'a dit tout à l'heure.
Certainement pour le bilan de l'année 2022, qui aura été riche. Et donc, on aura des choses à dire.
Ça durera plus longtemps qu'une heure.
Ça durera, à mon avis, un peu plus longtemps qu'une heure. On vous dit à très, très, très bientôt. Et n'oubliez pas d'aller regarder Willow.
Tout à fait.
Salut tout le monde.
Salut.
Ciao, ciao.
À moi l'aventurière qui doit sauver le monde.